Au Capi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Capi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Au
Capi. Qui a le droit de détenir et de lire un testament? C'est la question qui divise plusieurs familles après le décès d'une personne possédant des biens. Il arrive de voir que ce soit un proche, un parent, qui brandit le testament laissé par le défunt. Ce qui n'arrange pas souvent d'autres membres de famille qui, des fois, doutent même de l'authenticité de ce document. Alors, comment établir un testament afin d'éviter les contestations? Plus tard, on en parle avec Maître Dominique, qui est déjà en ligne. Maître Dominique, bonjour.
Bonjour, jeudi.
Voilà, vous intervenez à partir de Mbandaka. Alors, Maître Dominique, première question, c'est quoi un testament?
Merci beaucoup, jeudi. On va d'abord préciser que le testament est un acte personnel du défunt,
oui,
établi de son vivant, et par lequel cette personne dispose pour les temps où il ne sera plus, c'est-à-dire après son décès, et de cela pour pouvoir déterminer le sort de son patrimoine. À partir de cet acte, il répartit son patrimoine, c'est-à-dire il détermine ses héritiers et fixe les dispositions sur la tutelle de ses enfants lorsqu'il laisse des enfants mineurs. En bref, un testament, c'est un acte personnel par lequel la personne prévoit ce qui se passera après son décès et détermine ses dernières volontés.
Oui. Alors, est-ce
et à cet acte, la loi accorde un caractère et des effets juridiques.
Alors, Maître Dominique, est-ce qu'il y a des règles qu'il faut respecter ou la manière pour décrire un testament?
Merci beaucoup, Jody, pour pouvoir préciser les règles. La loi distingue trois sortes de testaments et les règles et les modalités à suivre sont distinctes selon qu'il s'agit d'une forme ou d'une autre. La première forme et la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle le testament authentique. Celui-ci est établi par le notaire ou par l'officier de l'état civil. C'est-à-dire que la personne qui veut se faire établir un testament authentique se dirige chez le notaire ou chez l'officier de l'état civil, lui déclare ses dernières volontés en ce qui concerne l'essor de son patrimoine et toutes les autres dispositions, et c'est l'officier de l'état civil ou le notaire qui les rédige. Et après rédaction, les deux personnes, et le notaire et l'officier de l'état civil, d'une part et de l'autre part, les testateurs, signent les testaments. Le notaire ou le conservateur l'officier de l'état civil conserve un original et inscrit ce testament dans le registre qu'il garde. Une autre copie est remise à l'intéressé. Ça, c'est le testament authentique.
Oui.
La deuxième forme, c'est le testament qu'on appelle techniquement le testament holographe. C'est-à-dire que c'est le testament qui est rédigé par le testateur lui-même. La loi prévoit que pour que ce testament puisse être valable, il doit être rédigé de la main du testateur.
Oui.
Et en plus de cela, on peut aussi les dactylographier ou les faire saisir à l'ordinateur ou l'écrire à la machine. Lorsque ce testament est écrit à la machine, il doit avoir une mention manuscrite ou une signature sur chaque page et il doit être daté et signé du testateur lui-même. Ça, c'est le testament holographe pour que celui-ci puisse être correct.
Voilà.
On peut aussi les faire à la machine et l'amener chez le notaire ou chez l'officier de l'état civil pour le faire authentifier. Dans ces cas-là, il cesse d'être holographe et devient testament
authentique. Oui.
La troisième forme, c'est le testament oral. Le testament oral est fait verbalement par une personne qui sent sa mort imminente. Et ce testament doit être fait en présence de deux témoins qui doivent être des personnes majeures. Et pour ce qui est des testaments oraux, la loi donne certaines limitations. Par exemple, le testament oral ne peut pas léguer, c'est-à-dire transmettre aux personnes des biens de très grande valeur. Et il doit avoir certaines limites.
Voilà.
Donc, il y a d'autres prescriptions que la loi établit pour ce qui est du testament oral.
Oui,
mais pour le principal,
sont
là les trois formes de testament et les règles prévues par la loi pour leur validité.
Voilà, ce sont les trois règles de testament. Dans cette émission, nous accordons la parole aux auditeurs. Maître Dominique, vous intervenez à partir de Mbandaka. Il y a également il y a Blanchard qui nous appelle aussi de Mbandaka. Bonjour Blanchard. Blanchard, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, ma préoccupation est de savoir est-ce que les droits congolais de la famille a prévu des sanctions contre une personne qui falsifie le testament après le décès d'une personne ayant possédé des biens.
Merci Blanchard pour la question, Maître Dominique.
Merci Blanchard. Je précise d'abord que le fait de falsifier le testament est une infraction. Cette infraction tombe sous le coup du code de procédure pénale et c'est une infraction de faux en écriture. Et cette infraction est sanctionnée. Il y a des peines de prison et des peines d'amende prévues pour cette infraction. Ça, c'est la première sanction. La deuxième sanction est qu'une personne qui a falsifié la dernière volonté du testateur, quel que soit son rang dans les catégories des héritiers, lorsque cette faute est établie, cette personne ne peut plus succéder. Cette personne, on ne peut pas les retenir parmi les héritiers qui doivent bénéficier de la succession. Donc ce sont là les sanctions prévues par la loi.
Alors, Maître Dominique, après avoir rédigé le testament, est-ce qu'il faut, vous avez dit qu'il faut aller l'authentifier, il faut remettre une copie au notaire et vous garder une copie. Alors, si avant de mourir, est-ce qu'il faut remettre cette copie à l'un des membres des familles ou à l'un des enfants ou à son épouse?
Cela dépend du testateur. Il peut remettre à n'importe quel membre de famille de son choix. Mais la loi insiste sur le caractère authentique, c'est-à-dire pour que le notaire ou l'officier de l'état civil conserve une copie, c'est pour pouvoir certifier de l'authenticité. C'est-à-dire qu'en cas de contestation, on peut aller chez le notaire et vérifier la copie que le testateur avait lui-même déposée. Et s'il y a des différences, c'est cette copie-là qui fait foi. Le testateur peut remettre une copie du testament à toute personne de son choix.
Voilà, mais certains disent que c'est un document à caractère confidentiel. Donc, jusqu'à sa mort, ce document doit être gardé. Soit il va confier ça à une personne, soit à un ami, à un proche de lui qui va le sortir après la mort de cette personne.
Effectivement, les testaments ont un caractère confidentiel. On évite aussi que les personnes qui bénéficient du testament, se sachant comme ça, puissent parfois aussi précipiter la mort du défunt pour pouvoir hériter des biens. C'est des situations que l'on rencontre parfois.
Oui.
Et pour cela, cet acte doit être couvert d'une certaine confidentialité. Mais il faut aussi que les personnes, les ayants droit, sachent qu'il y a un testament qui existe pour pouvoir en faire état. Parce que si le testament est gardé secret et que personne n'est au courant, après le décès, on ne peut pas savoir où est-ce que le testateur l'a caché, on risque de procéder au partage des biens comme s'il n'y avait pas de testament, et c'est ça aussi la difficulté.
Oui. Alors, imaginons que dans une famille, il y a plusieurs enfants et le papa laisse un testament pour un seul. Est-ce que le notaire va considérer cela? Parce que ça risque de créer des frustrations.
Mais dans ce cas, la loi prévoit ce qu'on appelle l'exhérédation, c'est-à-dire qu'une personne peut, pour des raisons qu'il juge utiles, exclure certaines personnes de sa succession.
Oui.
Si cela signifie que le testateur a exclu d'autres enfants de la succession pour des raisons qu'il donne, cela est valable. Mais s'il ne le dit pas, les autres enfants risquent de demander que le testament puisse être annulé et que l'on puisse procéder au partage comme s'il n'y avait pas de testament. Et si ce qui est à prendre comme précaution, c'est-à-dire lorsqu'on ne veut pas que telle personne ne puisse pas succéder, qu'on puisse l'exclure expressément. Si cela est dit clairement que telle autre personne sont exclus de la succession pour telle, telle, telle autre raison, cela est valable.
Radio Okapi, Okapi. Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Monsieur Kabamba nous appelle de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, vous avez la parole.
Bon, j'ai demandé, selon monsieur Dominique, il a donné trois possibilités de faire le testament, n'est-ce pas?
Oui, allez-y.
Oui, ce n'est pas selon monsieur Dominique, mais c'est selon le droit congolais.
Voilà, selon le droit congolais. Allez-y, monsieur Kabamba.
Selon le droit congolais, merci pour la correction. Mais je dis ceci, si il peut y avoir le cas du décès inattendu, comment est-ce que la famille peut procéder de façon qu'il n'y ait plus de troubles entre les enfants?
Merci beaucoup, monsieur Kabamba. Je ne sais pas si vous avez fini.
Oui, je viens de terminer.
Ok, merci beaucoup, monsieur Kabamba. La loi prévoit deux modes de succession. Il y a des successions avec testament et des successions sans testament. Lorsqu'il y a eu mort brusque et que la personne n'a pas déterminé, n'a pas laissé de testament, on va procéder au partage de ses biens suivant le mode qu'on appelle succession ad intestat, c'est-à-dire succession sans testament. Dans ces cas, les trois quarts de ses biens reviennent aux enfants, qui sont les héritiers de la première catégorie. Et ces enfants se répartissent ses biens à parts égales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un enfant qui va avoir une part plus importante que les autres parce qu'il est l'aîné, parce qu'il est l'unique garçon. Non. Tous les enfants se partagent les trois quarts des biens à parts égales. Et le un quart qui reste est réparti aux héritiers de la deuxième catégorie. Et dans la deuxième catégorie, nous avons trois groupes. Le premier groupe est composé du conjoint survivant. Parlons par exemple de la veuve, les cas échéants. Le deuxième groupe est composé du père et de la mère du défunt, s'ils vivent encore, et le troisième groupe est composé des frères et sœurs du défunt. Et dans ces cas, le un quart des biens qui restent est réparti en trois parts égales, et chaque groupe prend sa part. C'est de cette façon-là que la loi prévoit le partage des biens lorsqu'il n'y a pas de testament.
Voilà, Alain nous appelle de Colésie. Bonjour Alain.
Merci.
Oui, Alain, vous avez la parole.
Ouais, ma question est celle-ci. Hein.
Oui.
Alors, que peuvent faire les enfants qui, après la mort de leur papa, l'oncle cache le testament pour s'approprier le bien? Parce qu'ici, à Colossie, c'est un cas que moi-même j'ai vécu il y a même un mois qui s'est passé. C'est ça ma question.
L'oncle a
caché. Gens d'embauche depuis quoi?
Oui, l'oncle a caché le testament.
Je dis, l'oncle a caché le testament pour s'approprier le bien.
Oui, maître Dominique, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire?
En principe, il faut les traduire en justice. D'abord, le fait de détruire les testaments est une destruction méchante, c'est une infraction qui est punissable par la loi. On doit les traduire en justice et lorsqu'on ne sait plus retrouver les traces du testament pour pouvoir en dégager les contenus, il va être difficile de respecter la dernière volonté du découyous. Et dans ce cas, on saisit les tribunaux pour faire désigner un liquidateur et procéder au partage des biens du défunt comme s'il n'y avait pas de testament, c'est-à-dire en réservant les trois quarts aux enfants et le un quart aux héritiers de la deuxième catégorie qu'on a cité tout à l'heure.
Alors, maître, si l'oncle cache le testament, on suppose qu'une copie se trouve auprès du notaire.
S'il s'agit d'un testament authentique, effectivement, le notaire possède une copie ou l'officier de l'état civil, il serait mieux qu'on désigne un liquidateur qui peut saisir le notaire ou l'officier de l'état civil pour vérifier si ce testament-là a été authentifié. Dès qu'on retrouve les traces du testament chez le notaire ou auprès de l'officier de l'état civil, alors on va procéder au partage conformément à ce testament-là. Mais nous devons aussi savoir que par testament, on dispose de ses biens, mais on doit respecter certaines règles. Il s'agit par exemple de la règle des réserves successorales, c'est-à-dire la part des biens qui revient aux enfants, c'est-à-dire aux héritiers de la première catégorie, ne peut pas être entamée, même par testament. C'est-à-dire que la personne qui laisse un testament doit d'abord réserver les 3/4 aux enfants. Et pour le reste, elle peut disposer comme elle veut.
Voilà. Alors, maître, à quel moment il faut établir ces documents? Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la mort va frapper. Alors, à quel moment il faut rédiger son testament?
En principe, il est conseillé de rédiger son testament quand on est sain d'esprit et de corps, quand on est en bonne santé, quand on a le discernement. Et c'est le moment qu'il faut, on ne peut pas dire à tel âge, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la mort frappe, ça c'est dans la souveraineté de Dieu, et on doit rédiger le testament quand on est sain d'esprit et en bonne santé, et on a tous les discernements. Il peut arriver aussi qu'après avoir rédigé un testament, on change, on peut toujours changer et rédiger un deuxième testament. Lorsqu'on se retrouve en présence de 2 ou 3 testaments, c'est le testament le plus récent qui est valable.
Voilà, c'est le testament le plus récent qui est valable. Vous avez des préoccupations, des questions par rapport à ce sujet, composez le 081-890-63-94 ou écrivez-nous à l'adresse service@radiocapi.net. service@radiocapi.net.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Voilà, nous parlons aujourd'hui du testament, comment établir un testament en bonne et due forme, qui a les droits de détenir et de lire un testament. Alors, Maître Dominique, qui doit lire ces documents? Est-ce que c'est le notaire ou il faut quelqu'un de la famille?
En principe, s'il y a un liquidateur désigné, c'est le liquidateur qui va procéder à la lecture et à la détermination des parts des différents héritiers. S'il n'y a pas des liquidateurs, la famille, en principe, dès qu'une personne décède, on doit désigner un liquidateur parce que c'est le liquidateur qui est habilité à procéder à la liquidation de la succession. Le liquidateur peut être un membre de famille ou une personne extérieure à la famille.
Oui, une personne extérieure à la famille. Et si, par exemple, après lecture, cela crée des contestations à gauche et à droite, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là?
Mais dès lors que le testament a respecté les prescrits de la loi et conforme à la loi, quelles que soient les contestations, on doit procéder à le faire valider par les tribunaux compétents, c'est-à-dire les tribunaux de grande instance du lieu où la succession est ouverte. Et s'il y a un exemplaire conservé chez le notaire ou au bureau de l'officier de l'état civil, on doit vérifier la conformité du testament détenu à celui conservé par le notaire ou l'officier de l'état civil. Si les deux testaments ont le même contenu, les problèmes ne se posent pas. En cas de contradiction, c'est les testaments conservés par le notaire ou l'officier de l'état civil qui prévaut.
Voilà, nous avons une question de Imara Abounia. Il nous a écrit pour poser la question de savoir que prévoit la loi en cas d'un enfant unique et que la famille veut s'approprier de ses biens.
De toutes les façons, qu'il s'agisse d'un enfant unique ou de plusieurs enfants, la loi prévoit que les 3/4 des biens appartiennent aux héritiers de la première catégorie. L'enfant unique a le droit de saisir la justice pour pouvoir recouvrer ses droits. La loi prévoit que la personne lésée puisse saisir la justice qui va rétablir la vérité et le rétablir dans ses droits.
Voilà, la loi va le rétablir dans ses droits. Mais il arrive que pendant le deuil, on le voit généralement dans plusieurs familles à travers Kinshasa, pendant le deuil, il y a les membres, les frères ou les sœurs du défunt s'arrangent déjà pour commencer à vider la maison de tout ce qu'il y avait comme bien. Et peut-être que la lecture du testament se fera après. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui sera fait? On va les demander, les sommets de retourner tout ce qu'ils avaient déjà pris.
En principe, on doit veiller pour que personne ne puisse emporter les biens du défunt avant l'ouverture de la succession. Parce que c'est la succession qui détermine qui y a droit à quoi. Bien sûr qu'il y a des questions très sensibles d'ordre parfois métaphysique ou spirituel, et il y a des problèmes des familles qui se posent, mais il est recommandé qu'après le décès de la personne, après l'enterrement, que les gens se réunissent en conseil des familles et puissent décider qui va gérer la succession, désigner un liquidateur, ou s'il y a un testament, qu'on puisse en faire état. Des pratiques qui se font en marge de ces procédures sont des pratiques illégales. Les personnes victimes peuvent saisir la justice et se plaindre pour que ces élans soit arrêté et que l'on procède à la liquidation de la succession de manière régulière. C'est ça qui est recommandé. Mais ce que nous pouvons conseiller, c'est que nous trouvons dans la plupart des cas où les gens sont plus où les héritiers sont plus sous l'emprise de la coutume, sous la peur et tout ça.
Oui.
Nous pensons qu'ils ont la vérité de leur côté. Ils doivent s'armer de courage pour pouvoir défendre leurs droits.
Nous avons en ligne.
Ils peuvent se faire assister dans cette procédure.
Ouais. Nous avons en ligne Carmélie depuis la ville de Goma. Carmélie, bonjour.
Bonjour, monsieur l'animateur.
Oui, vous avez la parole, Carmélie.
Oui, je voulais poser ma question à rapport à ce que le maître avait dit.
Oui.
Que si, par exemple, le défunt n'avait pas rédigé son testament.
Oui.
Et qu'il est mort. Et après, ce sont les enfants qui sont les premières catégories à bénéficier des inheritances.
Oui.
Alors, pour le cas de ces enfants-là, ou un enfant qu'on vient de découvrir après, que sera sa part? Parce que on peut arriver qu'après ça, on lit le testament et on distribue les biens. Mais cet enfant-là qui n'avait pas été découvert, qu'on vient de découvrir par après.
Alors, merci. Maître Dominique, qu'est-ce que vous direz à Carmélie de Goma?
Ok, je vais d'abord préciser que dans ces cas, l'enfant doit, on peut le découvrir, mais il faut d'abord que l'enfant soit reconnu du vivant du défunt, du vivant de son père, si on peut le dire ainsi. S'il y a un acte de reconnaissance dressé du vivant de son père, l'enfant, cet enfant peut avoir un recours en justice contre les autres héritiers pour que l'on puisse réduire les parts des autres héritiers et lui réserver aussi une part, si ces parts existent. Mais s'il n'y a plus rien n'existe, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais si ces parts sont encore disponibles, cet héritier qu'on a découvert après a encore un droit de pouvoir recourir à la justice pour que l'on puisse réduire les parts des autres héritiers afin de lui réserver aussi sa part d'héritage. Et cela, c'est si l'action n'est pas prescrite, c'est-à-dire il ne faudra pas que l'héritier soit découvert 20 ans plus tard, plusieurs années plus tard, à ce moment-là, tout est déjà liquidé, ça va être compliqué, à l'impossible, nul n'est tenu.
Voilà, docteur Ekongo, je vous appelle de Bukavu. Docteur, bonjour.
Ah, bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, je voudrais poser une question. Donc, lorsqu'un couple est réuni donc sous le régime de communauté des biens, donc, que prévoit la loi? Donc, si le mari meurt, donc, qu'est-ce que la loi prévoit? Parce qu'au départ, ils ont été unis sous le régime de communauté des biens. Ça, c'est la première question.
Oui.
La deuxième question, c'est par rapport aux enfants naturels. Donc, je pense que le code de la famille, je ne sais pas si ça prévoit, donc, la reconnaissance forte des enfants naturels. Alors, qu'est-ce que la loi prévoit en termes d'héritage donc, par rapport aux enfants naturels?
Merci, docteur
Ekenbo. Merci beaucoup, docteur. Oui, je dis.
Allez-y, maître.
Ah, je suis allé vite en besoin.
Non, non, allez-y, vous avez la parole.
Je vais d'abord préciser que lorsque les époux sont unis par le régime de la communauté des biens, après le décès de l'un, on procède à la liquidation du régime matrimonial, c'est-à-dire qu'on distingue deux patrimoines. L'époux survivant ou le conjoint survivant récupère sa part des biens sur la masse commune et c'est la part qui revient à l'époux décédé qui va être partagée à ses héritiers. Et c'est sur cette part-là seulement que va porter l'héritage, pas sur l'ensemble des biens communs. Donc on procède d'abord à la liquidation du régime matrimonial pour distinguer les biens de celui qui est décédé et les biens du conjoint survivant. Et ce sont seulement les biens du conjoint décédé qui vont être partagés, qui vont faire l'objet de la succession. Ça, c'est en ce qui concerne la première préoccupation.
Oui.
En ce qui concerne la deuxième préoccupation du docteur, le droit congolais de la famille précise qu'il n'y a pas d'enfant naturel. Chaque enfant a un père. Et dans les cas d'espèce, la loi donne les droits égaux à tous les enfants, qu'il s'agisse des enfants nés dans les mariages, qu'il s'agisse des enfants nés hors mariage et des enfants adoptés. Tous les enfants ont les mêmes droits et leur part d'héritage, ils se les partagent à parts égales. La part d'un enfant né hors mariage doit être égale à la part d'un enfant né dans le mariage. La loi ne fait pas de différence par rapport aux enfants.
Voilà, maître Dominique Kamwandu, nous rappelons que vous intervenez à partir d'Mbandaka, vous êtes de l'ONG Avocats sans frontières. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission et bon début de semaine à Mbandaka.
Merci Jody, merci à toute l'équipe d'Okapi Service.